Bien, sans plus tarder, je vous invite à prendre le passage en Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2, et nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 13. Chapitre 2, Éphésiens, verset 1 à 13. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Prions. Notre Père céleste, nous te demandons instamment ta bénédiction sur ta parole, qu'elle puisse avoir un effet, car ta parole est comparée à un marteau qui brise le roc, une lumière sur notre sentier. Père éternel, que cette parole ne retourne pas sans avoir accompli ses desseins, et nous t'en donnerons toute la gloire, Seigneur Jésus, au siècle des siècles. Amen. Dans ce passage ici, il y a un contraste entre deux mots que l'on trouve tout d'abord, au verset 2, au verset 3, au verset 11, il est question d'un autrefois. Et puis, au verset 13, il est question d'un maintenant. En fait, ce passage que nous venons de lire exprime en quelque sorte les étapes de l'expérience du salut. Autrefois, vous étiez morts, mais Dieu nous a rendus à la vie, vous a rendus à la vie. Maintenant, vous êtes sauvés. En fait, il y a des gens qui pensent que tout le monde un jour va être sauvé. C'est ce qu'on appelle le salut universel. Mais dans ce passage ici, il est bien écrit qu'il y a un autrefois et un maintenant. Alors, je voudrais vous poser cette question à tous et chacun et chacun et chacune ici ce matin. Est-ce qu'il y a eu un autrefois dans votre vie? Et est-ce qu'il y a eu un maintenant? Ou est-ce qu'il y a un maintenant? En fait, est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous êtes en route pour le ciel? Y a-t-il eu entre un autrefois et un maintenant le mais de Dieu, l'intervention divine de Dieu? Il est écrit au verset 4, « Mais Dieu ». Y a-t-il eu un jour dans votre vie un « mais Dieu » afin qu'il y ait un autrefois et qu'aujourd'hui il y ait un maintenant? Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a eu un autrefois et un maintenant dans votre vie? En fait, dans ce passage ici, on voit les vérités importantes concernant le salut. On voit dans les versets 1 à 3 la nécessité du salut, l'homme est mort. On voit au verset 4 l'origine du salut, mais Dieu. On voit au verset 5 et 6 et aussi au verset 13 les mots-clés du salut. On voit aussi au verset 7 le but du salut. Et enfin, au verset 8 et 9, on voit le moyen du salut. Et verset 10, le résultat du salut. Ce passage nous parle de l'expérience du salut qui est nécessaire à l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'homme est mort. L'homme est mort par ses offenses et par ses péchés. Vous savez, c'est assez paradoxal parfois le vocabulaire biblique. D'un côté, Dieu dit « vous êtes mort », et puis de notre côté, il dit « vous êtes vivant pour le péché ». Comment peut-être mort d'un côté et vivant pour le péché de l'autre côté? Parce que nous avons besoin de comprendre ce que signifie la mort. Ici, il s'agit de la mort spirituelle. Le péché est la barrière entre Dieu et les hommes. Et le péché fait depuis Adam que l'homme est séparé de Dieu. La mort physique, d'ailleurs le mot grec pour mort signifie séparation. La mort physique est la séparation de l'âme et du corps. C'est pour ça que nous croyons d'ailleurs qu'il y a une vie après la mort, d'après les textes bibliques. Mais la mort spirituelle est la séparation d'avec Dieu. Qui plus est, la mort éternelle est la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et cela est dû à nos péchés et à nos offenses. Le péché est peut-être aujourd'hui un mot qui est pas très populaire, même si parfois on entend des repentances, ou on dit pas repentance, enfin des prises de conscience avec les mots pardon, ça arrive même dans certains pays qui se demandent pardon pour certaines périodes de leurs histoires. Mais le mot péché, dans le grec, amartia, signifie rater la cible. C'est comme si vous êtes un archer, vous avez votre arc, vous lâchez la flèche, et au lieu d'aller au centre de la cible, elle va un peu partout. Voilà. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu, et en fait, c'est rater la volonté de Dieu. Donc le péché, c'est toute transgression par rapport à la nature même de Dieu, à sa sainteté, à sa puissance, à sa volonté, et à son omnipotence. Et il faut dire que on n'a pas besoin de penser que les autres sont des pécheurs. Il suffit de regarder à soi-même pour découvrir que oui, le péché nous habite. Malgré les bonnes résolutions prises parfois en fin d'année, les matins du premier de l'an ou les autres jours se révèlent comme étant des matins comme les autres, avec cette loi de la pesanteur du péché qui s'accroche aux meilleures volontés, incapable de se soumettre à la loi du péché. D'ailleurs, la Bible dit que le péché a un poids terrible dans la vie de l'homme, depuis Adam et Ève. Car la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la preuve que tous ont péché, c'est que tous meurent un jour. Le salaire du péché, c'est la mort, car tous ont péché, dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. La conséquence du péché, c'est d'être privé de la communion avec Dieu, et donc de la prolongation de la vie sur terre, dans l'éternité, d'être séparé d'avec Dieu pour toujours. Qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que vous faites plutôt avec votre péché? Ah, il y a bien des religions aujourd'hui qui essayent d'extraire le péché de l'homme par toute espèce de mortification ou peu importe des œuvres religieuses, et ça n'enlève nullement ce poids de la pesanteur du péché dans la vie des hommes et des femmes, quels qu'ils soient sur la terre. Non seulement on a besoin d'être sauvé à cause de la mort spirituelle, mais parce que nous sommes en train de marcher en tant que personne rebelle. Non seulement nous sommes morts, mais nous sommes des morts vivants, parce que nous marchons, mais dans la rébellion. Nous marchons, nous dit la Bible ici, pour accomplir nos propres pensées. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, et laquelle vous marchiez, verset 2, selon le train de ce monde. Un jour, on s'aperçoit que malgré les bonnes résolutions et les meilleures volontés, même si on décide un jour de changer, on dirait que le naturel nous colle à la peau. Comme a dit certains Voltaire, chassez le naturel et il vous revient au galop. L'homme est prisonnier de lui-même et dans sa marche, il est dans un courant, le courant de ce monde. N'aimons point le monde ni les choses qui sont dans le monde, car la convoitise des yeux de la chair et l'orgueil de la vie ne vient point du monde. En fait, nous sommes des prisonniers sans Christ. J'aime bien l'illustration de pensée parce que c'est écrit ici, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, et la Bible dit ici que nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Alors Ludovic, dans son témoignage de baptême, a exprimé ses expériences de lien, n'est-ce pas, avec les mauvais esprits. Mais vous savez, sans faire d'expériences aussi profondes, la Bible dit et déclare que le monde est sous la puissance du malin. Donc nous n'avons pas le choix, la Bible nous donne un verdict, un diagnostic irréfutable, où on est sous la puissance de Dieu et libéré par son sang, où on est sous la puissance du malin. Peut-être sans le savoir. Une maladie grave qu'est le péché, une domination grave qu'est la domination de la puissance de l'air, le diable lui-même. D'ailleurs, il y a nombreuses de personnes, lorsqu'elles se convertissent, qu'elles s'aperçoivent que finalement, en découvrant Jésus-Christ, elles ont dû découvrir que le diable aussi existait et les maintenait comme esclaves. Un peu comme, n'est-ce pas, les marionnettes. Le diable tient dans ses mains les hommes avec des fils et des liens, et les hommes se promènent sur la terre, mais ils ne sont pas si libres que cela. Est-ce que vous avez la compassion des gens parce qu'ils sont liés par le diable? Liés comme des marionnettes. En fait, le diable est une puissance qui domine, et quand nous voulons le combat de nos propres forces, on s'aperçoit rapidement qu'on est incapable. Mort spirituellement et mort aussi et incapable de combattre l'adversaire qui est une force, un être Satan plus puissant que nous. Qui plus est, on est dans notre vie lié aux convoitises de notre chair. Ah, si on pouvait dire adieu à notre moi une fois pour toutes. Mais il revient rapidement. L'ego. Paul disait dans son expérience, je vous le lis, « Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. » C'est un peu, dans mon esprit, l'illustration suivante, quelqu'un qui essaierait de mettre ses mains sous ses pieds et de se soulever. Par sa propre force, l'homme n'est pas capable de vaincre la loi de la pesanteur, et par ses propres forces, l'homme n'est pas capable de vaincre la loi du péché en lui. « Misérable que je suis, disait l'apôtre Paul, qui me délivrera de ce corps de péché ?» En fait, l'homme produit des œuvres. Et la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes, car elles sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On essaie bien pourtant de changer notre nature. Mais la Bible a un diagnostic ici, nous appelle des enfants de colère. Ça se voit d'ailleurs parfois dans la conduite de certains conducteurs au volant de leur voiture. Vous avez remarqué, parfois la colère, les jurons, l'impatience, l'impulsivité, Et parfois, on doit veiller sur sa nature. Mais parce qu'on est des enfants de rebelles, on n'aime pas les lois. Vous dites à quelqu'un, ne fais pas ça, il a juste envie de faire l'inverse. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous dicte les choses, on n'aime pas être sous la loi des hommes, et encore moins sous la loi de Dieu. Mais vous savez, la Bible dit ceci, que nous sommes tous des enfants du diable, à moins d'être transformés et de devenir, par la grâce de Jésus-Christ, un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants du diable. Alors dites à quelqu'un dans la rue, arrêtez-le un moment, il lui dit, t'es enfant de qui toi ? Ben vous regardez, il va vous dire, ben, mon père, ma mère, peut-être qu'il les connaît, mais allez lui dire, êtes-vous un enfant de Dieu ou êtes-vous un enfant du diable ? Vous allez être surpris par sa réponse, parce qu'il n'est pas conscient. S'il n'est pas un enfant de Dieu, il n'est même pas conscient qu'il est tout simplement lié et qu'il a pour père le diable. Alors, il fallait que Dieu intervienne. Qu'est-ce que j'aime les mais de Dieu, M-A-I-S, dans la Bible, autant dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Il y a un psaume d'ailleurs où tous les deux versets, ou même dans chaque verset, je pense, la deuxième sentence dit « Car la miséricorde de Dieu est grande. » La miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu, la miséricorde de Dieu. Ah, si les gens connaissaient la miséricorde de Dieu, ils se pardonneraient plus facilement, ils s'aimeraient plus facilement. Et ils vivraient sous la grâce les uns envers les autres. Même la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a abondé. L'amour de Dieu, nous dit l'épître de Jean, a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Un jour, un de nos enfants, vous savez, le soir, quand on couche les enfants, c'est une bonne occasion d'avoir des discussions théologiques. Les enfants ont toujours de très bonnes questions. Et un jour, un de nos enfants, qui était pourtant très jeune, alors on parlait des choses de Dieu, dit « Oui, Dieu nous aime, et puis après on l'aime. » Je dis « Tiens, il a compris quelque chose de profond. Dieu nous aime, et après on l'aime. » C'est dans la mesure où on découvre Dieu et son amour, qu'on va commencer à l'aimer, parce qu'avant, on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas son amour. Mais on commence à aimer Dieu lorsqu'on a la révélation de son amour. Et qui est Dieu ? Et Dieu, nous dit la Bible, est amour. Et quand il a vu les hommes prisonniers, aujourd'hui on a le droit de combattre pour la libération de certains prisonniers, chrétiens persécutés, même des prisonniers politiques. On peut se battre pour que des hommes et des femmes sortent de leur prison. Hein. Et Madame Bettencourt a inclus dans ce combat. Et nous devons prier pour ce genre d'otages. Mais Dieu est intervenu dans sa miséricorde pour apporter le salut aux hommes. Les hommes prisonniers du péché, prisonniers de leur chair, prisonniers de la mort, prisonniers du diable. Oh, des barreaux qui paraissent invisibles, parce que l'homme veut paraître ce qu'il n'est pas. Mais pour Dieu, ces barreaux de ses yeux spirituels, il voit exactement les barreaux des cœurs des hommes et dans l'esprit des hommes et même parfois du corps des hommes. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Il nous a aimés même avant que nous le connaissions, même avant qu'on se tourne vers lui. Dieu de toute éternité nous a aimés. Il connaît, nous dit la Bible, jusqu'au nombre de nos cheveux et à notre naissance, même si on n'a pas dit Alléluia, lui nous aimait dès notre naissance et même dès la fondation du monde. Savez-vous que Dieu vous connaissait même avant que vous soyez nés, parce que Dieu vous aime. Il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ce monde. Dieu connaît toute créature, parce que c'est lui le créateur. Et ce Dieu-là nous a laissé dans ce passage ici des mots-clés concernant l'expérience du salut, rendu tout d'abord vivant avec Christ. On était mort spirituellement. Vous avez déjà essayé, bon, c'est peut-être un humour pas approprié, mais vous avez déjà essayé de chatouiller, ou imaginer plutôt, on va dire comme ça, de chatouiller les orteils d'un mort? Ça changera rien, hein. Écoutez, enfin, la première fois où j'ai vu quelqu'un de mort, parce que ça prend un certain âge jusqu'à ce qu'on vous laisse voir un mort, c'est impressionnant. C'est impressionnant, surtout quand c'est quelqu'un d'un être cher. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus de parole, il n'y a plus d'affection possible, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de communication. Un mort, c'est mort. Et on ne peut rien faire. Vous pouvez le secouer, vous pouvez l'implorer de revenir à la vie, c'est fini. Et c'était comme ça que nous étions et que nous sommes devant Dieu sans Christ, morts, incapables de comprendre les choses de Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, il a dit ceci, Jésus, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dieu veut nous ressusciter, ça s'appelle la nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et l'eau, c'est bien sûr le symbole de la parole. C'est pas le baptême, c'est le symbole de la parole. Il faut naître d'eau et d'esprit. C'est la parole de Dieu qui régénère. C'est l'esprit de Dieu qui régénère. Et en fait, c'est pour ça que nous croyons à l'importance de lire les Écritures et de distribuer les Écritures pour que les hommes et les femmes de ce monde et de cette génération puissent connaître la vérité. Et Jésus a dit, ta parole est la vérité. C'est profond cela. Ta parole est la vérité. Vous cherchez la vérité? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction intellectuelle que de lire la Bible. Parce que la Bible est vraie en toutes choses. Il n'y a aucun mensonge dans la Bible. La Bible dit qu'il fallait être rendu vivant avec Christ, et c'est ce que Dieu a fait par un acte souverain. Lorsqu'on se tourne vers lui, lorsqu'on est exposé à l'Évangile, lorsqu'on croit en sa parole, Dieu nous attire. Et lorsqu'on se donne, il nous rend vivants. Merci Seigneur. Et la Bible dit ici que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Le mot sauvé ici, c'est la délivrance du péché. C'est aussi le don de la vie éternelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il nous a rendus vivants avec Christ, il nous a sauvés par grâce, c'est-à-dire qu'il nous a délivrés du péché, avec le don de la vie éternelle. Et la Bible dit aussi qu'il nous a ressuscités ensemble. Mais c'est important cela, parce qu'une fois sauvé, si je dois encore vivre au ras des pâquerettes et être comme une limace alors que Dieu m'a transformé pour être un papillon, où serait ma liberté? Le jour où je comprends que Dieu m'a ressuscité en Christ, d'ailleurs c'est ce qui symbolise le baptême. Le baptême, c'est l'immersion totale de la personne dans l'eau, qui symbolise son identification à la mort de Jésus-Christ, et quand on le sort de l'eau, quand la personne sort de l'eau, c'est son identification en Jésus-Christ à la vie. Et la nouvelle nature, l'identification en Christ, cette nouvelle nature qui fait que le croyant est enfin vainqueur sur le péché, vainqueur sur la mort et vainqueur sur le diable. Amen. Amen. Quelle joie de savoir qu'on est ressuscité avec Christ. Comme disait Paul, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Parce que je m'identifie en sa résurrection. C'est lui-même qui m'a plongé dans sa mort et dans sa résurrection. J'ai aucun effort à faire, si ce n'est de croire en cette œuvre de Jésus-Christ qui m'a ressuscité avec lui. Quelle vérité profonde que symbolise le baptême, notre identification en la mort de Jésus-Christ et en sa résurrection, étant au bénéfice maintenant de sa puissance. Est-ce que Jésus-Christ pêche dans les cieux? Est-ce qu'il a des mauvaises pensées? Est-ce qu'il a toute victoire sur le diable? Mais oui. Et la Bible dit, si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ça fait du bien, cette promesse-là. Je suis ressuscité avec Christ, et en plus, Christ maintenant plaide pour moi comme un avocat auprès de Dieu le Père. C'est extraordinaire. Et la Bible dit aussi qu'il nous a assis dans les lieux célestes. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous dites que le croyant est assis dans la lieu céleste, mais je comprends pas. On a les pieds sur terre, non? On marche à 1m50, 1m70, 1m80, 2m pour les plus grands et quelques. Mais on est toujours sur terre, n'est-ce pas? On n'est pas encore avec lui là-haut. Et pourtant, c'est une vérité spirituelle. La Bible dit que Dieu nous a placés dans les lieux célestes, en Christ, que nous sommes assis avec lui. Nous avons une position qui est telle que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et nous avons ainsi la victoire sur le péché, sur la mort et sur l'enfer. Étienne, quand il a été lapidé, la Bible dit qu'il a vu les cieux ouverts et le Christ ressuscité. Les cieux étaient ouverts pour lui. Et c'est la même chose pour le croyant spirituel qui comprend qu'il est assis avec Christ dans les lieux célestes. Il est là où Dieu lui-même l'a placé. Notre problème, c'est ou une incompréhension par ignorance ou manque de foi, ou tout simplement, c'est ça, une incompréhension de ce que Christ a fait pour nous, sachant pourtant que nous sommes dans les lieux célestes. C'est une question de foi. Vous avez les pieds sur terre, mais vous êtes les croyants, les êtres les plus longs du monde, parce que vous êtes assis dans les lieux célestes. Quelle longueur de jambes, mes frères et sœurs. Vous comprenez l'illustration, nous sommes assis dans les lieux célestes. Et bien sûr, Satan voudrait nous voiler notre position. Par notre condition, parfois d'épreuves et misérables, et, ah, comme disait l'apôtre Paul, je ne fais pas le bien que je veux faire, je fais le mal que je veux. Satan veut nous voiler notre position, mais nous sommes en Christ. Nous sommes dans les lieux célestes. Et un jour, nous serons avec lui pour toujours, le Seigneur Jésus-Christ. Et en attendant, eh bien, restons assis dans les lieux célestes. Croyons en la victoire. Et quand Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, croyons que nous avons la victoire qui est déjà acquise. Nous n'avons pas besoin de demander la victoire, elle est déjà acquise. Nous avons besoin de la vivre. Et puis un autre mot-clé, non seulement rendu vivant avec Christ, sauvé, ressuscité ensemble, assis dans les lieux célestes, au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. J'aimerais vous lire ce passage, Hébreux 10, versets 19 à 22, je vous le lis. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante, qu'il a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Qu'est-ce que je chéris ce passage? Je l'ai lu un peu trop vite, je m'en excuse. Mais relisez à la maison Hébreux 10, versets 19 à 22. Nous avons un accès auprès de Dieu le Père parce que Christ, lui, a ouvert le chemin du sang par le calvaire. Nous pouvons nous rapprocher de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'Israël craignait de se rapprocher de la montagne où Dieu résidait. Et nous, nous avons la liberté de nous rapprocher de Dieu qui est dans les cieux à cause du sang. Nous avons été rapprochés par le sang de Jésus-Christ. Tout cela, mes frères et sœurs, vous qui connaissez le Seigneur, pour glorifier notre Dieu. Amen. Notre salut est pour glorifier notre Dieu, non seulement d'échapper à l'enfer, et de vivre non plus sous la domination du péché, du mal et de la mort et du diable, mais le but du salut, c'est de glorifier le Christ. Est-ce que votre vie glorifie le Christ? Parce que la Bible dit, afin de montrer dans les siècles à venir, ça c'est l'éternité, l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, un chrétien glorifie son Dieu sur la terre, parce que sa vie est transformée, mais il ne pourra que glorifier son Sauveur et Seigneur pour toute l'éternité, parce qu'il louera le Seigneur pour sa richesse et la grâce et sa bonté, pour l'éternité. Vous pensez vous ennuyer dans le ciel? Sachez que non. Tout le monde va chanter juste, même votre pasteur. Et on va chanter les louanges du Seigneur. Ah, je vais faire partie du groupe de louanges là-haut, hein? Je peux vous dire, une chose sera merveilleuse. On va chanter à la gloire de Dieu au siècle des siècles l'infinie richesse de sa grâce et sa bonté. On va pas s'ennuyer. D'ailleurs, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais vous allez me dire, je comprends assez bien maintenant le salut, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Eh bien, vous avez la réponse ici. Dieu nous a laissé clairement le moyen pour être sauvé, c'est sa grâce. D'ailleurs, dans le passage, dans les quelques 2 ou 3 versets qu'on lit ici, rapprochés, il y a le mot grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvé, par le moyen de la foi. Alors, la grâce, c'est un don immérité. C'est quelque chose qu'on ne peut pas recevoir de soi, on ne peut pas l'acquérir par soi-même, c'est un don qu'on l'on reçoit. J'ai bien aimé le commentateur René Page qui dit quelque part dans un de ses livres, je me souviens plus lequel, il dit ceci, « Dieu ne vend pas son salut, il le donne royalement, nous n'avons qu'à le prendre. Il nous l'offre même en nous suppliant de l'accepter, alors que souvent nous croyons devoir le supplier de nous sauver. » C'est incroyable cela. On a tendance toujours à se regarder de notre côté vis-à-vis de Dieu. Mais peut-être que Dieu nous voit autrement. Et lorsqu'on devient son enfant, par exemple, eh bien, il nous accueille et on n'a plus besoin de craindre. On a Dieu comme Père. C'est merveilleux cela. Dieu est mon Père. Je peux aller à lui par la foi. Je n'ai pas besoin de produire des péchés, mais je suis sauvé. Non seulement je suis délivré de la pénalité du péché, du pouvoir du péché, mais je serai un jour délivré de la présence du péché pour toujours lors du retour de Jésus-Christ. D'abord, je dois savoir, connaître, comment Dieu veut-il sauver? C'est par la foi en Jésus-Christ. Je dois adhérer à cela. Je dis oui, c'est vrai, c'est vraiment le chemin. Puis ensuite, je dois l'accepter. Il y a des gens qui savent, mais qui sont pas sauvés. Il y a des gens qui savent et qui disent oui à l'évangile. Ils sont pas encore sauvés. Parce que dire oui à l'évangile, c'est de savoir, c'est d'y adhérer et c'est de recevoir. C'est dire, Seigneur Jésus, entre en moi, sauve-moi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et ainsi porter des fruits dignes de la repentance. Pour terminer, on arrive à la conclusion. Quels sont les résultats du salut? Eh bien, il y a quelque chose qui est extraordinaire, qui n'apparaît peut-être pas dans votre traduction, je ne sais pas, en tout cas dans la mienne, non. Il est écrit, nous sommes son ouvrage. Alors ici, ça pourrait être traduit par sa création, entre guillemets, sa nouvelle création, étant créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. La traduction plus juste serait « afin que nous marchions en elles ». Vous vous souvenez, tout à l'heure, on disait que on marchait selon le train de ce monde. Maintenant, Dieu nous appelle, le résultat du salut, nous allons marcher avec Christ à nouveauté de vie, marcher selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, mais dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi ? Parce qu'avant, nous marchions sous l'égide du diable, sans le savoir. On n'avait pas le panneau, je suis du diable. Mais c'est exactement ce qui se passait. Et nous produisions des fruits indignes. Des fruits dont nous rougissons aujourd'hui, dont nous avons honte, les péchés, quels qu'ils soient. Alors Dieu se glorifie parce qu'il transforme le croyant. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il nous fait pratiquer, il nous fait marcher dans des bonnes œuvres préparées d'avance, qui sont la preuve du salut. Maintenant, si vous lisez Jacques, au chapitre 2, Jacques dit, « Tu as la foi, montre-moi la foi par tes œuvres. » Celui qui est sauvé, une des preuves de son salut sont les œuvres qu'il pratique, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais une fois qu'on est sauvé, on pratique les œuvres que Dieu suscite en nous. Et on marche dans ses bonnes œuvres, et le croyant rempli du Saint-Esprit n'a cesse d'entrer dans les œuvres de son Dieu pour le glorifier. Alors on était mort, incapable de faire quoi que ce soit de bien. Dieu nous ressuscite, il nous fait asseoir dans les lieux célestes, et maintenant il a dit, voilà mon enfant bien-aimé, j'ai un plan pour ta vie, tu vas marcher selon moi dans des bonnes œuvres préparées d'avance. Et c'est vrai qu'il y a la joie de faire et d'accomplir la volonté de Dieu. Un chrétien authentique désire faire la volonté de Dieu son Père. Il le fait avec joie. Et puis, malgré parfois des luttes. Et puis, on va terminer. Il y a un appel ici qui est double, je pense. Tout d'abord, un appel envers les enfants de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul dit au verset 12, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous avons cet esprit de reconnaissance où nous n'oublions pas au nom jamais d'où nous avons été sortis, afin de se souvenir de ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous étions morts, vivants pour le péché, rebelles, en colère, dans les convoitises de la chair, et Dieu nous a tirés de cette boue de péché, de l'esclavage du diable, pour nous asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Et si nous vivons en toute liberté aujourd'hui, c'est que maintenant est possible parce qu'il y a eu une autre foi que Dieu a purifiée. Mais si cette autre foi dans ta vie n'est pas purifiée par le sang de Christ, c'est qu'il n'y a pas de maintenant. C'est que tu n'es pas libre de vivre en Christ. Et donc tu es encore mort dans tes offenses et dans tes péchés et esclave du diable et de ta chair. Quel est le choix que la personne qui ne connaît pas encore le Seigneur doit faire. Alors, le diable, avant de nous convertir, voulait nous voiler Jésus-Christ et nous empêcher de voir la splendeur du salut. Mais il a une autre ruse une fois qu'on est converti. Il voudrait nous empêcher de voir la splendeur du salut accompli en Christ dans nos vies maintenant. Alors le croyant, il doit se souvenir d'où il est tiré, mais il ne doit jamais cesser de cultiver cet esprit de victoire, parce qu'avant il était sans Dieu, sans Christ, mort dans ses péchés, et maintenant il est ressuscité avec Christ, son nom est écrit dans le livre de la vie, il est en route pour le ciel. Franchement, il y a de quoi sourire ce matin, si vous êtes sauvé, parce que vous êtes en route pour le ciel, il y a de quoi être joyeux. Est-ce que la joie du Seigneur est votre force? Est-ce que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie? Est-ce que ce message a pu avoir un écho ce matin dans votre intelligence pour comprendre, dans votre cœur pour dire « oui, je crois cela » et maintenant de dire « oui, j'accepte ». J'aimerais vous inviter, pendant quelques secondes, ce ne sera pas long, de prendre un temps de recueillement ensemble où nous allons baisser nos têtes, fermez nos yeux, si vous voulez bien, un petit moment. Et vous qui êtes là, priez aussi pour ces moments, qu'ils soient bénis et que Dieu parle au cœur. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui ne connaît pas le Seigneur. Eh bien, c'est peut-être une occasion, après avoir entendu le message et aussi le témoignage de Ludovic, qui est très clair, il me semble, peut-être vous aussi, vous avez envie de goûter à ce Dieu. Il est bon de goûter à Dieu. Il est bon de le connaître. Prions. Notre Père, nous t'accordons tout l'honneur, nous t'apportons nos louanges, nos lèvres qui confessent ton nom, pour te louer de ce que tu as fait dans la vie de Ludovic, que tu as fait dans la vie de plusieurs ici, et que tu peux faire maintenant. Dans la vie de celui ou celle qui dit « Oui, Seigneur, je veux te connaître. Entre en moi, sauve-moi. » Y a-t-il quelqu'un ici ce matin, pendant que nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés, qui dit « Oui, priez pour moi. Je voudrais aussi connaître le Sauveur, Jésus-Christ. Le libérateur. Je n'ai peut-être pas tout compris, mais je voudrais accepter le Seigneur. Dans ce moment de silence où vous pensez seulement au Seigneur, à votre vie qui a besoin d'être transformée, changée, et vous faites ce pas envers le Seigneur et vous dites « Oui, priez pour moi ce matin, je voudrais accepter le Seigneur dans ma vie. » Alors je vous demande juste un geste. Par votre main levée, vous signifiez que oui, vous dites oui à Jésus-Christ. Alors, peut-être que vous n'avez pas tout compris, mais le Seigneur est là, il a parlé à votre cœur, et vous avez envie de vous rapprocher de lui, sachant que Jésus-Christ a dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Y a-t-il quelqu'un ici ce matin? Et vous le faites pour le Seigneur, non pas pour moi, mais pour le Seigneur. Oui, je la vois, je nomme, merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, je la vois. C'est pour vous aider qu'on fait cela. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui dit « Priez pour moi ». Ce matin, je dis oui à Jésus-Christ. Notre Père Céleste, je te demande de bénir ces deux personnes qui ont levé leurs mains. Merci de ce que publiquement nous voulons proclamer, Seigneur, que tu es Dieu, que tu es tout-puissant, El Shaddai. Et nous te donnons toute la gloire, Seigneur Jésus, au siècle des siècles, pour ta mort sur la croix, pour ta résurrection. Nous nous inclinons devant toi ce matin et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Puisses-tu bénir ces deux personnes qui désirent marcher avec toi maintenant, te recevoir. Puisses-tu les aider à faire ce pas maintenant, Seigneur, pleinement, sachant que tu as dit que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Père, nous te remercions de ce culte d'adoration que nous avons eu ensemble ce matin. Merci ce que dans le monde entier, tes enfants t'adorent, un esprit en vérité. Nous sommes heureux de faire partie de ta famille, le royaume de Dieu sur la terre. Gloire et louange te soient rendus, Seigneur Jésus, au siècle des siècles. Amen.